Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Dieu est amour, et ces trois choses se trouvent en Dieu, la foi, l'amour et l'espérance. Et de même, dans toute la vie chrétienne, ces trois choses doivent se retrouver en nous. Par exemple, vous trouvez dans la première épître de Paul aux Thessaloniciens, premier chapitre, verset 3, « Nous rappelons sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. » Ces trois vertus agissant en nous, l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance. Foi, amour, espérance. Foi, espérance, amour plutôt. Et l'amour, la plus grande des trois. Donc l'amour est très important. J'ai déjà dit que la force, la motivation des dons spirituels de la vie charismatique, c'est l'amour. Le terrain dans lequel poussent les plantes charismatiques, c'est l'amour. Et sans amour, il vaut mieux se taire. Il ne faut pas prophétiser sans amour. Il ne faut pas discerner des esprits sans amour. Si vous discernez chez quelqu'un un esprit démoniaque et que vous êtes dépourvu d'amour, il vaut mieux taire ce que vous discernez. Et parlez-en au Seigneur. Mais en le disant, vous allez faire du dégât. Parce que le manque d'amour empêche de dire les choses de la bonne manière. Jésus a dit des choses, il a été loin, c'était osé presque ce qu'il a dit, suivant les personnes. Mais il les a tellement aimés, il a pu le dire. Et ça a touché le bon point. Et nous devons demander au Seigneur qu'il nous donne son amour. Les dons de l'Esprit sont très importants. Le parler en langue aussi, et tous les dons. Le plus petit, c'est le parler en langue. Mais ce que Dieu donne est tellement bon que la plus petite chose, ça vaut la peine. Vous savez, les miettes qui tombent sur la table, c'est du bon pain. Et pourtant, il y a quelque chose qui est plus grand que les dons spirituels, c'est le fruit de l'Esprit. Et on le trouve dans Galates 5, verset 22. Galates 5, le fruit de l'Esprit. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, qui est la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. Tous les autres viennent de l'amour. C'est l'amour d'abord. L'amour est qui permet le reste, qui permet la joie, qui permet la paix, qui permet la patience, qui permet la bonté. Vous voyez dans le même chapitre, au verset 19, les œuvres de la chair. Ce que la chair produit, elle le fabrique, ce sont des œuvres. Mais l'Esprit pousse des fruits. Un arbre qui est un bon arbre, il a du fruit. Vous pouvez prendre un arbre de Noël, vous le coupez dans la forêt, un sapin, vous l'amenez chez vous à la maison, vous le décorez, c'est beau. C'est merveilleusement beau, vous le décorez avec des bougies, vous le décorez avec des objets, avec des petits objets en chocolat, avec des pives aussi. En chocolat ou bien une sorte de plastique brillant. Et on regarde cet arbre et on se réjouit. Mais ce n'est pas un arbre fruitier. Même si vous lui mettez des pommes en massepain qui sont attachées aux branches, les enfants aiment ça, mais ce n'est pas un arbre fruitier. Parce que vous avez attaché, vous avez rajouté. Ce n'est pas l'arbre qui a produit du fruit, ce sont des œuvres. Tandis qu'un pommier qui est en bonne santé, il pousse, il fleurit. D'abord, il y a le feuillage, puis la fleur, puis le fruit. Il y a des pommes. On reconnaît l'arbre à son fruit. De même avec la vie chrétienne. On reconnaît l'arbre à son fruit, chez chaque chrétien. Le fruit, c'est pas les dons spirituels. Il y a des gens qui essayent ils se remplissent de dons spirituels, ils en veulent, plus, toujours plus, et ils les exercent volontiers, ils s'étalent un peu dans leurs dons spirituels, parce qu'ils voudraient qu'on voit qu'ils sont vraiment chrétiens, mais ça ne prouve rien du tout, du tout, du tout, du tout. Les chrétiens qui pensent là se trompent. Un chrétien m'avait une fois demandé, « T'en as combien, toi, des dons ?»« Tu les as les 12 ?»« Ou les 9 ?» Parce que les chiffres sont différents, suivant les listes qu'on prend. J'ai dit, ben, « Écoute, j'en sais rien du tout. Ça m'intéresse pas de savoir. C'est pas important pour moi. Si l'Église a besoin de tel ou tel don, et si les dons ne sont pas dans l'Église, je vais les demander au Seigneur, parce que c'est important pour l'Église. Mais ce que Dieu cherche dans ma vie, c'est quoi? Quand Jésus a passé près d'un figuier, qu'est-ce qu'il cherchait? Des décorations, des bougies? Il cherchait de la figue. Il s'est approché, il n'a pas trouvé de fruits. Et puis il a dit, c'était pas la saison des figues. Puis il l'a maudit. Vous direz, mais ça tient pas debout, alors Seigneur, il faut savoir ce que tu veux. Si c'est pas la saison des figues, il n'y a pas de figues. Et je me suis laissé dire que, déjà, dans l'avant-saison, au moment où il y a le feuillage, où le figuier est vert, il y a des petites figues vertes dessous. Et s'il n'y a pas ces figues vertes, je ne suis pas du pays, je vais essayer de dire ça, s'il n'y a pas ces figues vertes, il n'y a pas de figues non plus en été. Donc Jésus a dû s'approcher pour regarder. Et il a vu qu'il n'y en avait pas, il a pensé, bon, il n'y aura pas de figues l'été non plus. Quand Jésus s'approche d'une ville, qu'est-ce qu'il cherche? Des décorations, des dons spirituels? Les dons sont bons, je ne les juge pas ce soir. Ils sont bons, ils sont donnés, c'est des cadeaux de Dieu. Mais c'est pas ça que Dieu cherche en nous. Il entre ici, le Seigneur, il cherche pas la prophétie. Il cherche pas le don des miracles. Lui, il a tout ça, il n'a pas besoin de ça. Il nous le donne parce que nous, on en a besoin. Mais ce qu'il a besoin, parce que le Seigneur a des besoins, dans sa grâce, il s'abaisse pour avoir besoin de quelque chose. Lui qui a besoin de rien, il a quand même besoin de quelque chose. Il a besoin de nous. Ça, c'est un miracle. Quand il rentre ici, le Seigneur, il cherche le fruit de l'esprit, l'amour. Et quand il le trouve, son cœur est heureux. Parce que lui aussi est dans l'amour. Il y a un écho, il y a une réponse. Ça vient de lui et ça retourne à lui. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Aimez-vous les uns les autres, c'est le fruit de l'esprit. C'est très important de comprendre cela. J'ai voulu aussi vous montrer autre chose encore par rapport à l'amour. Premier épître de Jean, chapitre 2, versets 7 et suivants, 7 à 11. 1 Jean 2, versets 7 à 11. Bien-aimés, encore une fois c'est mis bien-aimés, nous sommes vraiment bien-aimés. Dieu nous aime bien et Dieu nous aime pour le bien. Ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris, ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui, mais celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et ne sait où il va, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Le Seigneur met ensemble ici l'amour et la lumière. Il dit que celui qui est rempli d'amour, il vit dans la lumière. Il est du jour et non pas de la nuit. Et que celui qui haït son frère vit dans les ténèbres et ne sait pas où il va. La haine, c'est la nuit, ce sont les ténèbres. Et l'amour, c'est la lumière. La lumière et l'amour, c'est la même chose. Il est dit qu'au début, que la lumière est venue. Et la lumière était la vie des hommes. Sans lumière, il n'y a pas de vie. Sans amour, il n'y a pas de vie non plus. Aimer, c'est vivre. Être aimé, c'est pouvoir vivre. Sans amour, il n'y a pas de vie. C'est pas possible. Et celui qui vit dans la haine, il vit dans la nuit. Et il ne sait pas où il va. Et il a besoin de Jésus, qui est la lumière. Et la lumière, c'est l'amour. Et il y a plusieurs passages de la Bible qui nous montrent que la lumière est l'amour. Par exemple, Épître de Paul aux Romains encore, chapitre 13, versets 10 et verset 13. Chapitre 13, verset 10, Romains 13, 10. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. C'est aussi le résumé de la loi. Prenez toutes les lois juives. La Bible dit la loi est bonne. Elles sont toutes bonnes, ces lois. prenez-les toutes, vous en faites un paquet, vous concentrez avec une immense loupe théologique, et vous en faites un mot, et c'est l'amour. C'est le résumé, le concentré de la loi. Tous ces commandements, vous les mettez en paquet, l'amour. L'amour est l'accomplissement de la loi. Celui qui aime, il a tout accompli. Il n'y a plus de commandement pour lui. Il a tout fait ce qu'il avait à faire. L'amour résume, rassemble. C'est le sommet de la loi. Et puis verset 13. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivronnerie, de la luxure et de l'impudicité. Revêtons les armes de la lumière, afin du verset 12. La lumière. Au verset 10, l'amour, au verset 13, la lumière. C'est la même pensée. Se rejeter les œuvres des ténèbres, c'est rejeter tout ce qui appartient à la haine, qui appartient au manque d'amour. Et revêtir les œuvres du jour et les œuvres de la lumière, les armes de la lumière. Quelles sont nos armes? Notre plus puissante arme, c'est d'aimer. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui vous est opposé, qui est votre ennemi. Vous pourriez essayer de discuter, essayer d'arranger les choses, ou bien essayer de convaincre, de montrer que c'est vous qui avez raison, finalement. Si la personne continue à s'opposer à vous, il devient menaçante, vous crée des difficultés, puis si vous continuez à l'aimer, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse contre vous? Elle emploie des moyens pour vous chicaner, vous continuez de l'aimer. Mais que voulez-vous qu'elle fasse? Elle n'a pas d'armes contre vous. C'est vous qui tenez le couteau par le bon bout, si j'ose dire. Mais c'est pas un couteau, c'est ça? C'est une arme, mais c'est pas un couteau. C'est une arme puissante que d'aimer quelqu'un. J'ai une fois dit à un jeune, au nom du Seigneur, je t'aime, je prierai pour toi. Il me dit, mais non, jamais, fiche-moi la paix. Il ne voulait pas, il sentait bien que c'était fort. Il sentait bien qu'il allait se passer. Mais il m'a dit, mais non, fiche-moi la paix, ça m'intéresse pas. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas que je l'aime. Il disait, mais ça va me conduire où, ça, je vais devoir changer. Enfin, il sentait bien que, vous savez, l'amour, il y a quelque chose de fort dans l'amour. Vous aimez quelqu'un, mais il va se passer des choses. Ce sont les œuvres, les armes de la lumière. L'amour est la lumière. Celui qui vit dans la haine vit dans les ténèbres. Il y a encore deux autres choses. Il est dit aussi que celui qui et qui manque d'amour, il est meurtrier. 1 Jean 3, verset 15. « Quiconque haït son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. » Aimer, c'est vivre. Et ne pas aimer, c'est mourir, ou bien c'est faire mourir. Haïr son frère, c'est... Dieu dit, c'est le tuer. Vous direz, c'est quand même exagéré, ça. Non, Dieu dit les choses parce qu'il sait où ça conduit, il sait ce que c'est. Et il sait où mène la haine, et il sait où mène l'amour. Il sait que la haine conduit à la mort d'une façon ou d'une autre, tandis que l'amour conduit à la vie. La lumière, c'est la vie, les ténèbres, c'est la mort. Et aimer, c'est faire vivre. Et haïr, c'est tuer. Celui qui haït est un meurtrier. Et puis encore un troisième verset pour l'amour. 1 Jean 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haït son frère, c'est un menteur. Être dans l'amour, c'est être dans la vérité. Tandis qu'un manque d'amour, c'est du mensonge, c'est de l'erreur. Et on ne peut pas dire « J'aime Dieu » et ne pas aimer son frère. Comment est-ce qu'on peut aimer Dieu qu'on ne voit pas et puis aimer son frère et ne pas aimer son frère qu'on a là sous les yeux? L'amour. Dieu est amour. Et j'ai dit aussi cet après-midi que l'amour parfait chasse la crainte. Il n'y a plus aucune condamnation. Nous sommes libres de toute condamnation. Pour celui qui est en Christ, pour celui qui est entré en Christ et chez qui Christ est entré. Moi en lui et lui en moi, dit Jésus. Ça, c'est la communion avec Christ. Sans communion avec Christ, pas de communion fraternelle. Pour qu'il y ait communion fraternelle, il faut qu'il y ait des frères. Et d'où viennent les frères? Comment devenir frère? Par naissance, comment est-ce que je suis? Je suis membre d'une famille, c'est la famille de Satan. On y entre d'office par la naissance. Mon père, c'est le père du mensonge. C'est un meurtrier, c'est un tueur, mon père. C'est Satan. Je rentre dans le monde comme cela. Je ne choisis pas le chemin large, je suis dedans. Mais un jour, j'entends parler de Dieu et de la famille de Dieu. Et d'un Dieu qui m'aurait voulu, moi, dans sa famille, mais mes ancêtres n'ont pas voulu. J'ai un grand-père en montation qui s'appelait Adam, il n'a pas voulu, à un moment donné. Et il s'est tourné vers un autre père. Il a renié son père, il s'est tourné vers Satan. Et il a fait entrer sa femme, sa famille et tous les descendants dans la famille de Satan. Maintenant, on est dedans. Ça, dans un sens, j'y peux rien. Mais dans un autre, le mal est en moi et moi je le choisis quand même, donc je suis quand même responsable. Et je suis dedans. Je fais partie de la famille du diable. Peu de gens le savent. Certains le savent. Certains le savent. Si vous parlez à des drogués et qu'ils vous racontent ce qu'ils vivent, ils savent bien de quelle famille ils font partie, je vous garantis. C'est l'enfer qu'ils vivent littéralement. Et tous détestent pratiquement leur drogue, mais sont toujours dedans. Ils vous diront, ça me dégoûte, mais je suis dedans. Je ne peux pas m'en sortir. Combien souvent j'ai déjà entendu ça? Ils savent dans quelle famille ils sont. Ils savent très très bien. Et puis un jour, on me parle de la famille de Dieu. Celle que je n'aurais jamais dû quitter. La famille du Père, mon vrai Père. Mon Père dans le ciel. Mon Père qui m'aime. Mon Père qui m'a fait. Mon Père qui, m'ayant fait, sait ce qui me fera plaisir. Il sait comment vivre avec moi puisqu'il m'a fait. Avec lui, je peux avoir communion comme avec personne d'autre puisque c'est lui qui m'a fait. J'aurais jamais dû le quitter. Alors je vais quitter cette famille qui est une famille étrangère à laquelle j'ai été comme attaché de force finalement. Je vais la quitter pour entrer dans la famille de Dieu et pour naître de nouveau. Nicodème, pharisien, disait à Jésus, mais comment c'est possible? Moi je suis vieux, comment veux-tu que je me plie en quatre pour entrer dans le sein de ma mère? Il y a des choses que je comprends pas, Jésus, là. Tu parles en image, d'accord, mais moi, je te suis pas. C'était un grand théologien, Nicodème. Vous savez, les grosses têtes, on a peine à entrer, à passer par la porte. Le cœur est trop petit. On ne peut pas tout expliquer avec Dieu. Jésus lui a dit, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu changes de famille, que tu rentres dans la famille de Dieu. Et tu vas devenir un enfant de Dieu. En recevant Jésus-Christ, tu ouvres ta vie, il entre en toi comme ton sauveur. C'est lui qui a porté tes péchés, il te pardonne. Dès ce moment-là, tu es en Christ et lui en toi. C'est la communion. Et dans cette communion, Romains 8, verset 1 nous dit, il n'y a plus aucune condamnation. Libéré du poids de culpabilité. Je suis frappé chez les tout jeunes, adolescents qui ont 12, 13, 14 ans, le poids de fardeau, de culpabilité qu'ils ont dans leur vie. Ils sont déjà coupables, ils savent qu'ils ont péché. On leur dit le contraire. La psychologie leur dit le contraire. La pédagogie aussi, on laisse tout faire aujourd'hui. C'est jamais de leur faute. Mais le poids est là. Il est là parce que c'est Satan qui leur met ça sur le dos encore pour les écraser. Satan n'aime personne. Ce qu'il peut écraser, il écrase. Quand on est en train de se noyer, Satan vous met le pied dessus, c'est-à-dire que Jésus vous tend la main. C'est biblique. Pierre s'enfonçait, Jésus lui tend la main, il l'a relevé. Mais Judas s'enfonçait, ils lui ont dit, c'est ton affaire, ça te regarde. Et il a marché tout droit vers son suicide. Personne l'a aidé à ce moment-là. Personne l'a retenu. Satan vous met le pied dessus quand vous vous enfoncez. Parce qu'il n'aime personne. Il n'est pas le père de l'amour, il n'y a pas d'amour chez le diable. Pour savoir dans quelle famille vous êtes. Parce que dans la famille de Satan, il n'y a pas l'amour. Et n'y sera jamais. Satan compte ceux qui lui appartiennent. Et il leur colle un chiffre, 666. Il les compte. Il se fiche complètement de qui vous êtes. Votre famille, votre éducation, votre vie, votre jeunesse, ce que vous ressentez, vos problèmes, vos blessures intérieures, vos problèmes de la vie, tout ça, aucun intérêt. Il compte ceux qui sont à lui. C'est-à-dire que le Seigneur s'intéresse à vous. La meilleure preuve, c'est qu'il vous appelle à sa communion. Il aimerait vous avoir avec lui beaucoup de temps. On peut pas toujours, mais Le Seigneur nous aime tellement que parfois il ne répond pas à la prière tout de suite, afin qu'on vienne encore vers lui pour prier. Autrement, on ne reviendrait pas. Oh Seigneur, ça répond d'un coup, bon, mais c'est bon. Non, le Seigneur tarde un peu, il attend, puis on revient, on prie. Et le Seigneur dit, ah, il est avec moi un moment, je suis content. Le Seigneur aime avoir la communion avec nous, il aime notre personne, il nous appelle par notre nom, il nous distingue de la grisaille de la masse, il nous appelle par notre nom, il connaît notre vie, notre adresse, notre profession, nos sentiments intérieurs, nos contradictions en nous, tout cela le Seigneur connaît. On peut discuter avec lui, on peut tout lui dire, et lui nous dit aussi tellement de choses dans sa parole. C'est un livre de révélation. Plus vous ouvrez, plus la lumière vous arrive dessus, vous arrive en plein visage et vous illumine. La Bible, plus je la lis, plus je découvre des choses dedans. L'amour de Dieu, la communion avec Dieu, comme c'est précieux. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, la fin de Romains 8. Et je vais encore prendre un verset qui montre l'amour de Dieu, un simple verset, dans Jérémie. Je souhaite que vous l'appreniez par cœur, ce verset. Il n'est pas difficile à apprendre. C'est un frère qui a partagé ce verset avec moi il y a peu de temps, et ça m'a fait du bien. J'en ai vécu des semaines avec, sur ce verset. Jérémie 31, versets 3 et 4. De loin, l'Éternel se montre à moi. Il y a ceux qui disent, oui, mais moi, je suis loin de Dieu. Mais je vous dis que Dieu se révèle déjà à vous. Parce que de loin, il se révèle à vous. Il est déjà en train de se révéler. De loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je te rétablirai encore et tu seras rétablie, Vierge d'Israël. Tu auras encore tes tambourins pour parure. Et tu sortiras au milieu des danses joyeuses. Quelle merveilleuse parole! Si vous lisez tout le livre de Jérémie, vous avez pendant 30 chapitres, le Seigneur qui est obligé, à part le premier chapitre qui parle de Jérémie et de son appel, autrement 29 chapitres, disons, où le Seigneur est obligé de dire à son peuple ce qui ne va pas. Et qu'est-ce qu'il y en a? C'est une liste terrifiante. Et le Seigneur promet d'abord, il les gronde. Et puis il annonce le jugement. Et puis finalement, il annonce quasiment la dispersion, la destruction, le désastre national. Il dit que ceux qui échapperont au feu seront tués par l'épée, d'autres par la peste. Il dit que les femmes se mettront à manger leurs enfants, crevant de faim dans la ville. Mais c'est abominable. Dieu est obligé de dire cela à son peuple. Pendant 29 chapitres, ça vous assomme. Vous lui dites ça d'un coup, hein, en une soirée, à la fin du soir, vous êtes, ça vous nivelle, vous êtes là, ça vous tombe dessus, littéralement. Et c'est juste, tu ne peux pas dire autre chose. Nous avons péché, nous sommes comme ça. Nous aussi ne sommes pas meilleurs que les Juifs, pas meilleurs que le peuple de Dieu, qu'Israël. Et Dieu doit nous dire la même chose. Et tous ces jugements-là se défilent devant nous. Et c'est tout à fait juste, Dieu n'est que juste. Il se retient encore dans son jugement. On arrive au chapitre 31. Et dans ce chapitre, Dieu dit, « Je t'aime. » Dieu s'est retenu pendant 30 chapitres. Et il ne peut plus se retenir, il faut qu'il le dise. Il faut qu'il le dise parce que c'est dans son cœur. « Mon peuple, je dois te juger, tu pèches. Tu es un peuple qui se prostitue parce que tu as des idoles. » Tu vas vers d'autres dieux, tu n'es pas fidèle. Je t'aime, je te bénis, et toi tu foules aux pieds mon amour. Mais moi je te dis mon peuple, je t'aime. D'un amour éternel. Éternel et inaltérable. Dieu aime le pécheur. Le drogué dans sa fange, Dieu l'aime. Il n'aime pas sa drogue, mais il aime le drogué. Vous me direz, mais est-ce qu'il l'aime longtemps comme ça? Je dis, mais tout le temps, il l'aime tout le temps. Et il l'aimera jusqu'au bout. Quand son amour sera au bout, c'est parce que le jugement sera intervenu et que la personne sera entrée dans son destin éternel. Mais autrement, l'amour de Dieu reste le même. L'ivrogne dans la rue, la prostituée, l'homme d'affaires sans cœur. Enfin, le pécheur, quoi. Dieu l'aime. Dieu l'aime comme sa brebis qui est dans son bercail, dans l'église, qui prie, qui loue son nom. Dieu les aime tous de la même manière. Et Dieu nous dit, je t'aime, d'un amour éternel. Vous savez, l'amour de Dieu, c'est merveilleux. Il résiste à tout. Résiste à tout, on peut pas l'enfoncer. Ça peut comme un bouchon, vous le prenez, vous l'enfoncez dans l'eau, vous ouvrez la main, il remonte. C'est pas possible, on ne peut pas tuer l'amour. L'amour est là. Dieu nous aime. Je t'aime d'un amour éternel. Et puis ce qu'il y a de fort, c'est que Dieu dit, je te rétablirai encore et tu seras rétabli, vierge d'Israël. Vous savez ce que c'est qu'une vierge pure, qui n'est pas souillée, qui est pure, qui s'est gardée. Et Dieu dit à ce peuple qui est une prostituée, pendant 30 chapitres qu'il a montré ça à son peuple, tu t'es prostituée, tu es idolâtre. Tu mens, tu es infidèle, tu te souilles par tes idoles, tu es une prostituée. Et puis au chapitre 31, Dieu dit, je te rétablirai, vierge d'Israël. Vous savez, le salut, c'est quelque chose de grand. Quand Dieu nous sauve, il nous lave de telle manière que c'est comme si on n'avait jamais péché. Prenez une feuille de papier, comme ça. Vous la prenez et vous la pliez en deux, comme ça. Ce sont les plis du péché dans notre vie. Je fais qu'un pli, là. Et maintenant, on va essayer de réparer. Alors, on ouvre la feuille. Et on la plie dans l'autre sens. Et on s'arrange pour essayer d'éliminer la marque. Mais vous ne pouvez pas éliminer. C'est marqué pour toujours. Si vous sentez ici, c'est marqué. Il y a la marque du pli. Le pli ne part pas. La tache du péché reste. Si tu laverais ton péché dans du nitre ou dans la potasse, il resterait marqué devant moi, dit l'Éternel. Tu as une peau tachetée, et tu as beau te laver, elle reste tachetée. Tu es souillé par le péché. Et pourtant, Dieu dit, je te rétablirai, vierge d'Israël. Comme si tu n'avais jamais péché. Nous sommes sauvés. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est entré en nous et nous en lui. Et Dieu nous regarde. Et Dieu dit, c'est une vierge. Jamais péché. Pur, pur, pur. C'est merveilleux. Dans Job, au chapitre 33, je crois, ou 36, attendez, je vais vous donner ça de manière sûre. Job, chapitre 33, verset 26. Verset 19 à 33, c'est le chant de celui que Dieu a sauvé. Vous savez, le salut, c'est toute la Bible, c'est pas seulement le Nouveau Testament. On trouve le salut décrit dans Job. Et Job a beaucoup souffert. Et ici, il dit, il parle du salut, du bonheur d'être sauvé, et du miracle. Et il dit, au verset 26, celui qui est sauvé, il adresse à Dieu sa prière, et Dieu lui est propice. Une autre version dit, il a le sourire de Dieu sur lui. Savez-vous ce que c'est ça, le sourire de Dieu sur vous? Quand Dieu est content, quand Dieu vous regarde, vous le priez, et Dieu est content. Dieu vous donne ce que vous demandez, il donne, et Dieu est heureux. Dieu lui est propice, lui laisse voir sa face avec joie, et lui rend son innocence. Il chante devant les hommes et dit, j'ai péché, j'ai violé la justice, je n'ai pas été puni comme je le méritais. Dieu a délivré mon âme pour qu'elle n'entre pas dans la tombe. Tu lui rends son innocence, comme si je n'avais jamais péché. Libéré du péché, purifié, nettoyé, propre. Pendant des années dans ma vie chrétienne, on m'a parlé de la vie chrétienne comme si Dieu m'avait revêtu d'une robe blanche. Et que cette robe, on peut la tacher quand on pêche, ça fait une tache dessus. Et vous demandez pardon au Seigneur pour enlever la tâche. Pendant des années, c'était comme ça. Et je demandais pardon au Seigneur. Tout ça, c'est juste, demander pardon au Seigneur. Mais l'accent était sur ma repentance. Et je pensais, si je me repens comme il faut, eh bien, le Seigneur va enlever ma tâche, je serai de nouveau pur. Si je pêche de nouveau, je demande pardon et je suis de nouveau purifié. Oh, c'est cette sorte d'échange entre le péché et la repentance. Quelquefois, j'étais pas tranquille. Au milieu de la nuit, je me réveillais pour redemander pardon sur une même chose. J'étais pas en paix. Mais je crois qu'il y a bien plus que cela. Il existe aujourd'hui des des tissus spéciaux, des nappes. Elles, on peut pas faire des taches dessus. On renverse le café, mais après ça, on passe l'éponge, on voit plus rien. Ça prend pas. Eh bien, c'est de ce tissu-là qu'est la robe que Jésus nous a donnée par son sacrifice. Ça ne prend plus les taches. D'accord, si je pêche, je me repens, je viens au Seigneur. Mais l'accent n'est pas là-dessus, l'accent est sur le Seigneur. Il m'a donné une vie de victoire sur le péché. Je suis vainqueur. Il nous rend notre innocence, il nous rend notre pureté. Voilà l'amour de Dieu. Et cette pureté, c'est aussi, c'est la transparence. Et c'est ce qui nous permet de vivre ensemble. C'est ce qui permet la communion fraternelle. Plus nous sommes purs, plus nous pouvons vivre en communion fraternelle, plus nous pouvons aimer les frères et les sœurs. Parce que quand vous êtes purs, vous pouvez regarder les autres en face. Un garçon peut regarder une fille, puis il se passe rien de grave. Sinon qu'il s'aime dans le Seigneur, c'est tout. Mais il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de bizarre situation. Vous savez, vous sentez ce que je veux dire. On n'ose pas se regarder parce qu'on sait qu'on va penser des choses qui iront plus loin qu'on le voudrait. Alors on baisse les yeux. Mais quand on est pur, on peut se regarder en face. On peut vivre ensemble. On peut être transparent. On peut être. Ça veut pas, transparent ne veut pas dire inexistant. Mais on laisse passer la lumière. Et la lumière, c'est l'amour. L'amour circule, la grâce circule. Et la vie communautaire devient possible. Et tout cela est créé par l'amour de Dieu. Je vous dis ces choses en peu de temps, mais c'est pas facile à vivre. Mais c'est possible. Rappelez-vous ce verset de Jérémie 31, verset 3. Aussi, si vous passez par des épreuves, si vous vous sentez bas tombé, n'oubliez jamais de ce verset. Je t'aime d'un amour éternel, dit le Seigneur. Je te rétablirai encore. Je ne comprends pas les chrétiens qui peuvent se réjouir quand un autre chrétien tombe. Je ne comprends pas ça. Je ne sais pas d'où ça vient, cette joie, mais pas de Dieu. Dire, oh, il est encore tombé. Puis on se réjouit. Je ne comprends pas d'où vient cette joie. Parce que quand on tombe, il y en a un qui se réjouit, c'est Satan. Et la Bible dit, ne te réjouis pas à mon sujet, mon ennemi. Car si je suis tombé, Dieu me relèvera. Alléluia. La Bible dit, le juste tombe 7 fois. Et 7 fois, Dieu le relève. Oh, c'est puissant. Il y a plus que le péché, vous savez. Le péché est une grande puissance, mais Dieu est plus puissant que le péché. Il est plus grand que votre problème, le Seigneur. Il déborde votre problème, mais de tous les côtés. Il est plus grand que la pierre devant la tombe. Il roule la pierre et il met un ange assis dessus. Puis voilà, c'est pas un problème. Il roule la pierre, puis il met l'ange dessus assis. Et puis les femmes arrivent et la tombe est ouverte. Et Jésus a quitté la mort. Et c'est le premier homme qui a quitté la mort pour ne plus jamais mourir. Il y avait déjà eu des résurrections avant. Jésus lui-même a ressuscité des gens, mais ces gens sont morts, Lazare est mort plus tard. Il n'est pas mort au moment où il est mort la première fois, il est revenu, il est mort 2 fois dans le fond, Lazare. Mais une première, il en est sorti. Mais plus tard, il est mort comme chacun de nous devront y passer un jour ou l'autre, si Jésus ne vient pas avant. Mais Jésus, lui, ne verra jamais la mort. Il a quitté la mort pour toujours. La mort n'arrive plus à le prendre. Elle s'agrippe à lui, mais elle n'arrive pas. Elle a voulu le retenir quand il est monté, il n'a pas pu. Il est parti, il a pris les clés aussi avec. Il a pris les clés de la mort. Parce que Jésus a voulu montrer par là que ce n'est que le début. Satan, il faut que tu saches, c'est que le début. Moi je sors, mais il va en sortir d'autres, Satan. Oh, ça ferait jouir alors. Toute une compagnie, tout un peuple va sortir de la tombe un jour. Au son de la trompette. Au signal d'un archange, à la voix de Dieu, Jésus-Christ descendra. Et en route, il y aura une telle puissance d'amour qui nous attirera vers lui. On ne pourra plus rester comme ça, il faudra monter. Alors il y aura une puissance qui nous arrachera à l'attraction terrestre. Vous savez, les petits enfants, des fois, ils aimeraient y arriver. Alors, ils font comme ça. Et moi, je suis un grand garçon, mais ils peuvent quand même pas s'arracher. Ils sont quand même sur la terre. Et l'attraction terrestre, quand on tombe, on sait ce que c'est. C'est assez douloureux. Mais là, on sera arraché à cette puissance et on ira vers le Seigneur. Et on verra le Seigneur face à face et on quittera les tombes. Quand je passe près d'un cimetière, d'abord je regarde s'il y a des versets bibliques sur les pierres tombales. J'aime bien ces versets bibliques. Mais je me dis des fois, mais qui c'est d'entre eux qui va sortir là? Qui c'est qui va sortir? Lesquelles? Quelles tombes seront ouvertes? Lesquelles? Ah, j'aimerais savoir. Il y aura un grand peuple de ressuscités parce que Jésus a vaincu la mort. Et ce n'est que le premier de la série. C'est le prototype du chrétien vainqueur de la mort, Jésus. Il est sorti de la mort et nous allons sortir avec lui. Et nous sommes déjà vainqueurs, spirituellement, dans la victoire sur le péché, dans la victoire sur la haine. C'est l'amour qui est vainqueur. La Bible dit que la vie a englouti la mort. Englouti. L'amour engloutit la haine. Il ne faut pas se battre contre la haine. Ce n'est pas un combat charnel. Il ne faut pas se battre contre ses propres sentiments. Ça devient morbide, on tourne autour de soi-même. Il ne faut pas se battre, il faut engloutir. La mort engloutit la vie, elle l'a mangée. Au contraire. La vie engloutit la mort. Elle l'a mangée. Engloutie. Et la mort a ainsi disparu. Et Jésus ne s'est pas battu contre la mort. Il a accepté de mourir pour nous. Mais il a englouti la mort. La vie engloutit la mort, elle est sortie de la tombe vainqueur. Voilà pour l'amour. L'amour de Dieu. L'amour du prochain maintenant. Matthieu, chapitre 22, verset 37 à 40. Matthieu 22, verset 37 à 40. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu » de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Cet amour de Dieu produit en nous un écho. Ce Dieu qui nous aime tant, ça nous pousse à répondre, ça nous pousse à l'aimer. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous ne suivons plus des commandements, mais nous aimons Dieu, et nous aimons le Seigneur, et nous suivons ce Seigneur que nous aimons. La seule loi qui est sur nous, c'est celle de l'amour. C'est la loi royale. C'est le sommet de la loi. C'est la loi des lois. C'est la plus belle loi. C'est le plus bon gouvernement. C'est le plus merveilleux peuple. C'est la meilleure constitution. Il n'y a aucune république en France qui était aussi bien que cela. Quelle est cette loi? L'amour. L'amour du Seigneur. Donc j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée, Luc ajoute, de toute ma force. Tout mon être. Aimer le Seigneur. Et puis tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est là-dessus que j'aimerais parler un peu. Aimer son prochain. Jésus a dit cela. Premièrement, il n'a pas inventé. C'est pas lui qui a inventé l'amour pour le prochain. On le trouve déjà dans la loi juive. Lévitique 19, verset 18. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est étonnant. En plein milieu de lois morales et cérémonielles, il y a cette loi qui vient un peu poser là-dessus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc ça a toujours été en Dieu. On dit oui, mais l'Ancien Testament, c'est un Dieu sanguinaire, et le Nouveau Testament, c'est un Dieu qui aime, donc c'est pas le même Dieu. Moi, je crois pas à ce genre de théorie. Je crois qu'il y a un seul Dieu. Et l'Ancien et le Nouveau Testament sont tout à fait semblables, c'est le même Dieu. Et Jésus n'invente pas ce commandement, l'amour du prochain. Il le reprend. Il le reprend d'un verset du Lévitique. Jésus montre par là qu'il croit que le Lévitique, c'est la parole de Dieu. Et comme il a cité des psaumes, et comme il a cité le Deutéronome, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça c'est le Deutéronome. Jésus croyait à l'Ancien Testament, et il le lisait, et il en était pétri, et il en vivait. C'est important à noter. Ensuite, Jésus, il ne l'invente pas, mais non seulement il le reprend, mais il le distingue, ce commandement. Il lui donne une force extraordinaire. Il va chercher au milieu des lois juives et il en pique une à laquelle il donne une importance presque démesurée. Il dit, la loi et les prophètes dépendent de ça. Toute la loi se résume dans cette pensée, aimer. Aimer ton Dieu, aimer ton prochain. Il distingue ce commandement. Il le fait éclater. Il lui donne son sens. Il lui donne sa vraie valeur éternelle devant Dieu. Il l'interprète. Non seulement il n'enlève pas cet amour du prochain, mais il lui donne une première place importante. Maintenant, cet amour pour le prochain, c'est intéressant. Dans les lois juives, ils avaient des lois extérieures, des lois pratiques, matérielles, pour essayer de comprendre les choses intérieures et spirituelles. Dans le Nouveau Testament, Dieu s'y prend exactement par l'inverse. C'est d'abord l'intérieur. L'amour est d'abord dedans. Puis après, il faut qu'il se manifeste. Toujours depuis le centre vers l'extérieur. Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est en nous d'abord que Dieu place son amour et après, l'amour jaillit vers l'extérieur. Si vous faites l'inverse, si vous essayez de faire du bien pour ceux que vous n'aimez pas, en fagotant pour eux un tas de choses, vous allez souffrir. Vous allez faire souffrir et vous n'arriverez pas à votre but vraiment. Vous me direz, mais je fais des efforts incroyables, j'arrive pas à aimer cette personne. Je lui fais sa popote, je lui fais son lit, je lui fais ci, je lui fais ça, etc. Si c'est pas un correspondant de quelque chose qui est là-dedans, ça marchera pas, ça produira rien du tout. Ça sera du vent, vous battrez l'air. Mais si vous aimez là-dedans, et si vous laissez sortir cet amour, ça c'est différent. Depuis le centre vers l'extérieur. C'est comme la joie. J'aime pas quand on témoigne en disant, quand on prêche, on évangélise et on dit, il n'y a pas de joie dans le monde, venez à Christ, c'est lui qui apporte la joie. C'est pas vrai, il y a de la joie dans le monde. Il y a tout plein de joie même. Seulement la différence, c'est qu'elle est en dehors. Et on essaie de l'amener dedans. Et on fait des acrobaties pour ça, parce que ça marche pas souvent. Et puis elle est fugitive, elle échappe, elle s'en va, elle est passagère. Mais elle vient depuis dehors. Il y a beaucoup de joie dans le monde, ça danse dans le monde aussi. Comme dans Jérémie 31.4, mais c'est pas la même danse pourtant. Parce que dans Jérémie 31.4, c'est une danse qui vient depuis dedans. C'est le cœur qui danse. Et il danse tellement qu'il entraîne le reste avec. C'est depuis dedans. Et la joie chrétienne, c'est une joie intérieure. Il y a des chrétiens qui ne sont pas heureux parce qu'ils ne laissent pas sortir leur joie. Ils sont trop intériorisés, centrés sur eux. Ils ont la joie du salut, mais ça ne sort pas. Ils sont de tristes chrétiens et des chrétiens tristes, c'est dommage. Mais la joie, elle est pourtant là. Il suffirait qu'il la laisse un peu s'échapper pour qu'elle puisse prendre toutes ses dimensions. Là aussi, Jésus donne ce sens, il distingue ce commandement. L'amour du prochain, ça se passe ici-dedans. Et depuis là, ça se traduit en action. Quand il prend sur le sermon sur la montagne, quand il dit « la loi vous dit ça et ça, mais moi je vous dis », Jésus va toujours à l'intérieur. Il a dit, la loi vous dit de pas faire ça, mais moi je vous dis que si vous pensez ça et ça, vous avez déjà péché. La loi a dit, tu ne commettras pas d'adultère, mais celui qui convoite une femme en a commis un. Jésus entre dans le cœur, c'est pas bon, mais il rentre dans le cœur, et il montre ce qu'il y a dedans. Billy Graham disait, on peut pas échapper au premier regard. Vous savez, souvent comme les femmes s'habillent, elles ont leur programme électoral sur elles-mêmes. Alors, les garçons sont quand même pas faits en bois non plus, que voulez-vous? Toujours regarder au ciel, s'il y a des trous sur la route, c'est pas marrant. On tomberait dedans. Alors, on regarde, le premier regard, vous pouvez souvent pas échapper. Mais le deuxième, on peut échapper. Quand le regard s'attarde là, on pourrait dire non. Et puis rectifier son regard, et puis regarder ailleurs. Voyez? Jésus va toujours depuis l'intérieur. C'est l'intérieur et puis qui jaillit vers l'extérieur. Ensuite, ce commandement, aimer son prochain. Jésus le fonde. Il le rattache au commandement d'aimer Dieu. Parce qu'on ne peut pas aimer son prochain si on n'aime pas Dieu. Et puis parce qu'on ne peut pas aimer. Et puis si on ne se sent pas aimé par Dieu. Et on ne peut pas aimer son frère. On ne peut pas vivre en communion fraternelle si on n'aime pas son prochain non plus. Parce qu'aimer son prochain comme soi-même, c'est le premier stade de l'amour. C'est l'amour minimum. Aimer son prochain comme soi-même, c'est faire exactement à son prochain ce qu'on ferait pour soi-même. Les petits soins qu'on a pour soi, on les fait pour le prochain. C'est ça, aimer son prochain comme soi-même. Pour Dieu, c'est la première marche. On n'arrive déjà pas à faire cela. Vous vous rendez compte? Et puis on parle de l'amour de Dieu. On va loin, on part en haut, on part dans des grandes explications, puis on n'arrive pas à la première marche. Qui nous dit que aimer son prochain comme soi-même, ben, c'est faire à son prochain ce qu'on aime faire pour nous. Parce qu'on se soigne quand même, non? On s'aime soi-même. Alors, Dieu dit, ben, ce que tu fais pour toi, exactement, tu le fais pour ton prochain. Déjà là, on a de la peine. Jésus fonde cet amour. Il dit qu'il y a deux commandements. Tu aimeras ton Dieu. Et second commandement, tu lui semblable ton prochain comme toi-même. Il lit les deux. Ils sont distincts. Il y a deux relations. La relation avec Dieu et la relation avec l'individu. Ces deux relations existent dans la vie chrétienne. D'abord avec Dieu et ensuite avec le prochain. Il y a une analogie entre les deux amours. Ils doivent se compléter, se retrouver. On trouve ça dans toute la Bible. Ensuite, j'en arrive à ce point. On ne va pas pouvoir aller très loin ce soir, mais c'est un point très important. Vous savez, en Israël, on ne lit pas la Bible, on la décortique. Mot par mot, on étudie les versets, on les découpe, etc. Le sens des mots, ça voudrait dire ça, ça pourrait dire ça, ça oserait peut-être dire cela. Et on discute. Il y a les scribes qui écrivent la loi. Il y a les pharisiens qui la pratiquent. Il y avait des centaines de commandements, ils en avaient rajouté 604. Ils avaient un morbide plaisir à rajouter des commandements impossibles d'ailleurs à pratiquer, suivant lesquels. Ils ont rajouté. On découpe ces choses-là en Israël. Et voilà ici, l'amour du prochain, faut pas croire qu'en Israël, ça passe comme ça. Si Dieu dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, ils vont pas accepter ça comme ça, les Juifs. Ils vont dire à Jésus, mais qui est mon prochain? D'accord, Dieu, tu dis qu'il faut aimer son prochain. D'accord, on ne veut pas se battre. Mais qui est mon prochain? Et un homme est venu te poser la question à Jésus. Il fallait dire que ça se passe. Et c'est dans Luc 10 que je prends ce récit. Je vais le lire. À partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour l'éprouver, maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Question importante. Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Comme c'était un docteur de la loi, il devait le savoir, c'était un juriste biblique, un juriste de la religion, un légiste, un casuistique. Un casuiste, ça veut dire qu'il s'intéressait à chaque cas qui découpait les choses. Bon, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Bien répondu, dit Jésus. C'est vrai, c'était juste. Il était en plein dedans. Il a dit la vérité. Que dit la loi? Il faut aimer. On n'arrive pas, mais il faut aimer. Mais Dieu nous aime. Et Jésus-Christ est venu, donc c'est possible. Voilà. Aimer. Qui a bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Ah, ça a dû lui tomber dessus parce que Jésus lui dit, tu as bien répondu, ça allait encore, ça lui faisait plaisir, mais que Jésus lui dit, fais cela et tu vivras, là, ça se gâte. Mais lui, voulant se justifier, parce qu'il se sentait accusé, et pourtant Jésus ne l'a pas accusé, hein, et il n'accuse personne dans tout le récit d'ailleurs, lui voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Ah, Seigneur. Et vous savez qui c'était leur prochain? Les pharisiens, leurs prochains, c'était les autres pharisiens. Et les juifs du peuple, c'était les juifs, mais pas les samaritains, et pas les grecs, et pas les sidoniens, et pas les syriens, et encore moins tous les autres plus loin. Et surtout pas les romains qui occupaient le pays. Alors surtout pas les romains. Ça serait été les derniers à être sur la liste. Vraiment les derniers. Alors là, Quand il dit « qui est mon prochain ?», il y a tout un monde qui s'ouvre. Hein. Il y a tout un monde qui s'ouvre. Jésus reprit la parole et dit « un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un Samaritain qui voyageait étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Et comme c'est la seconde fois qu'il lui disait, fais de même, fais, il faut croire que c'était son problème. Il était fort pour discuter, mais pas pour agir. Et nous sommes souvent très semblables à cela.